Bienvenue dans Réussir ou mourir, le podcast où j'interroge mes potes sur leur définition de la réussite. Et dans ce troisième épisode, ce n'est pas une amie, mais c'est ma maman que j'ai interviewée. Cela faisait un moment que je réfléchissais à inviter quelqu'un qui avait suffisamment de vécu pour nous parler avec recul de ce qui avait fonctionné ou non dans leur quête de réussite. Mes parents ont grandi avec le modèle lié à leur génération. Ils sont arrivés sur le marché du travail avec l'idée que leur job était lié au statut social, qu'il faut trimer pour assurer une sécurité financière et atteindre un idéal de vie. Le bonheur au travail n'était donc pas prioritaire pour eux. Interviewer ma mère était l'occasion d'avoir le retour de quelqu'un qui a vécu selon ce modèle et de voir s'il y a des leçons à en tirer, qu'elles soient positives ou négatives. Vous vous doutez que je n'étais pas super serein à l'idée d'interroger ma maman. C'est une des personnes que j'ai le plus envie de rendre fière au monde et je me devais d'être à la hauteur. Je savais que l'exercice n'était pas évident pour elle non plus, car c'est quelqu'un d'humble qui parle peu d'elle. Un truc de famille sûrement. Mais pour le coup, j'ai vraiment été surpris par son aisance et la pertinence de ses réponses. En lui faisant écouter le podcast avant la diffusion, elle se demandait si cela allait vraiment intéresser des gens. Mais moi, je suis sûr que oui. Je sais pas si je l'ai rendue fière avec cet épisode, mais moi, je suis très fier d'elle et je regrette pas de l'avoir invitée pour le troisième épisode de Réussir ou mourir.
Changer le monde, vous êtes bien sympathique, mais on va déjà vous lever le matin.
Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le mien.
Travail, c'est super.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
Ouais, c'est compliqué, ouais.
Ouais,
c'est
compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Et il faut s'étudier. Et quand on s'étudie, on trouve une voie.
Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler.
Comme ça, ça a l'air très facile. Le seul problème, c'est que j'ai une de ces trouilles.
Georges, enfin, il n'y a pas de raison d'avoir la trouille. Essaie d'avoir un peu confiance en toi.
Tu sais, quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver.
C'est bon.
Coucou maman.
Bonjour Martin.
Merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce troisième épisode de Réussir ou mourir, épisode réalisé en plein confinement à Luzarches, chez nous à la campagne.
Et donc tu dois interviewer ta maman.
Ben, voilà. C'est un plaisir. Et t'étais pas la suivante sur la liste, mais le hasard a fait que, et je trouve que c'est une très bonne idée au final.
Ben oui, peut-être que nous allons apprendre des choses l'un de l'autre.
Exactement. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et où tu en es dans la vie actuellement ?
Alors d'abord, qui suis-je ? Je m'appelle Marie. J'ai facilement deux fois votre âge, à vous, auditoire, puisque je suis ta maman. Je suis issue de la campagne, dans la Somme, plus exactement, d'un petit village. Donc c'est vrai qu'on en reparlera sans doute, mais la vie, quand j'étais petite, était quand même dans un milieu, on ne va pas dire confiné, mais quand même un petit peu. Voilà, c'est le mot du moment. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre ? Ce que je suis devenue au fil du temps.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui ?
Voilà, alors maintenant je suis plus âgée, donc j'ai cessé mon activité professionnelle, mais sinon j'ai fait une carrière d'infirmière après avoir fait des études sur Amiens. Un peu diversifiée, parce que c'est l'avantage de ce métier, il y a beaucoup de facettes. Et c'est vrai que j'avais facilement envie de bouger au bout de quelques années, d'aller voir un petit peu ailleurs. Donc j'ai commencé à l'hôpital d'Amiens. Ensuite, je suis arrivée en région parisienne, sur Amiens. Après, j'ai travaillé dans un service d'hospitalisation à domicile et de maintien à domicile des personnes âgées. Entre-temps, les enfants sont arrivés. Un jour, le troisième a montré son nez, donc j'ai pris un congé parental. Et puis, comme beaucoup de monde, nous avons émigré en région parisienne pour suivre le boulot de ton papa. Et donc après, il a fallu que je redonne un nouvel aspect à ma vie professionnelle, parce qu'avec trois enfants et un mari parti du matin au soir, c'était compliqué. J'ai saisi une opportunité en devenant directrice adjointe d'une crèche familiale. C'est tout juste si je savais ce que c'était. De fil en aiguille, j'ai trouvé un poste d'adjointe après ce remplacement qui m'a permis de me former à ce métier. Un jour, on m'a même proposé la direction de cette crèche. Bon, j'ai été un peu obligée d'accepter. C'était difficile de ne pas accepter, mais ça ne faisait pas mes affaires parce qu'il fallait que je travaille plus. Et puis la crèche, bon, j'avais fait le tour, la crèche familiale, donc j'ai réussi à rentrer à l'éducation nationale en tant qu'infirmière de santé scolaire. D'abord en lycée, donc, très intéressant, un lycée polyvalent, professionnel, à Goussainville. Goussainville, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est une... Ouais, c'est sa zone sensible en plus, enfin, très compliqué. Un monde pour moi complètement nouveau. Et puis après le lycée, ben moi j'ai fait le contraire de tout le monde, j'ai régressé, je suis allée au collège. Et puis un jour mon mari a cessé de travailler, alors je me dis, ben, je vois pas pourquoi moi je continuerais à travailler. Donc j'ai pu m'arrêter. Et puis là vraiment c'est une nouvelle vie qui a commencé il y a 3 ans environ, une vie à deux. Enfin, on est revenu un petit peu à la case départ de d'après notre mariage. Et je pense que nous profitons actuellement des... Peut-être, ça fait partie des plus belles années de notre vie, je pense. Parce que nous avons la liberté, nous avons un petit peu d'argent, nous sommes en bonne santé encore, nous avons encore nos facultés intellectuelles, enfin, je crois, peu près intactes.
Je confirme.
Donc, je pense que c'est chouette. Puis nos enfants, maintenant, sont élevés, donc ils ont les cartes en main.
À peu près, ouais.
À peu près. Oui, c'est vrai qu'il y a parfois au niveau des finitions, il faut encore un peu y revenir. Mais ils ont les cartes en main, donc je pense qu'on n'a pas la satisfaction du devoir accompli, mais enfin, on a fait ce qu'on pouvait pour eux. Mais on continue à les aider s'ils ont besoin de nous, bien sûr. Voilà, est-ce que c'est vite tracé, hein? C'est une vie, là, il y a
60 ans résumés en 3 minutes.
Oh, c'est violent, pourquoi dire ce chiffre?
Je le couperai au montage.
Oui, oui, 61 même. Non, je ne suis pas... Ça ne me gêne pas.
Ok.
Voilà.
Et du coup, pour compléter un peu, tu as même pris ta retraite anticipée?
Oui.
Pour être avec papa, coordonné avec papa.
Oui, voilà, tout à fait, parce que je pense qu'un jour ou l'autre, on va décliner, donc il sera trop tard pour en profiter. J'ai pu partir avec un tout petit pécule de la fonction publique, parce que la fonction publique, c'est fait pour gagner sa vie, pas pour s'enrichir. Et puis après, on revoit ses besoins, on change de vie s'il faut, on est plus modeste. Et puis, pour être tout à fait franche, je pense que mon travail ne me passionnait plus ou pas suffisamment pour me motiver pour aller, même en travaillant à temps partiel. Voilà. Mm-hmm. Et puis en ayant les vacances scolaires.
Est-ce que tu pourrais nous parler de ta définition de la réussite?
Oh là là, on rentre dans
le vif du sujet.
Alors, la réussite, ça, après, c'est cliché de dire qu'il ne faut peut-être pas assimiler réussir dans la vie à réussir sa vie. Mmh. Hein, je pense que je ne suis pas la première à le dire. Donc, on va tout de suite laisser de côté réussir dans la vie, parce que c'est trop connoté financièrement, socialement. Donc, ça, on va le laisser. Alors, réussir sa vie, alors là, ça, on est parti pour la nuit, là. Hein. Réussir sa vie... Ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre sa vie comme on l'entend, je pense. Je pense qu'il y a de ça. C'est-à-dire en étant fidèle à ses aspirations, en étant suffisamment sûr de soi aussi pour imposer ses aspirations, puis en ayant l'attitude de pouvoir les imposer parce qu'on a suffisamment de confort, socialement de quoi vivre, de quoi subsister. Et donc, on a quand même plus d'aisance pour s'imposer et pour dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc, il y a une notion de liberté, une notion de confort, de bien-être. Puis suffisamment de paix intérieure. Et puis, savoir le matin pourquoi on se lève, hein, et qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa journée, quel est son moteur. Voilà, et puis quand au soir de sa vie, parce que réussir sa vie, ça veut dire aussi qu'on est en train de faire un bilan, donc on n'est pas encore mort, hein, on est encore jusqu'à la fin. Donc là, on fait un bilan d'étapes, hein. Peut-être au-delà de la mi-étape. Hein? Et puis, il faut de temps en temps, c'est vrai, arriver à prendre du recul pour se dire Est-ce que ça, je l'ai bien vécu? Est-ce que si je referais les choses? Est-ce que je referais les choses telles que je les ai faites? Suivant la réponse, on peut se dire qu'on a réussi. Mais il faut aussi savoir être humble et se dire que ben on peut pas changer tout, on peut pas changer les choses. Il y a des événements qui sont incontournables dans la vie. Donc voilà.
À quoi tu penses par exemple comme événement
incontournable?
Ouais.
Bah je sais pas. Un accident, un enfant handicapé. Une crise des subprimes qui fait que tu te retrouves
ça c'est, de toute façon c'est des événements extérieurs
voilà ouais
ta volonté donc ça tu peux que les accepter au final.
Parfois tu te trompes je pense sans doute que c'est dans une de tes questions futures mais je pense que tu es formaté par ton éducation et parfois il faut du temps pour que tu prennes conscience qu'il y a des choses dans ton éducation avec lesquelles tu n'es pas en adéquation, que tu n'es pas en accord. Donc y en a qui se rendent compte vite et puis parfois tu te rends compte bien plus tard, donc tant pis, c'est comme ça, faut continuer, faut pas vivre avec ses regrets, avec ses remords. Alors, je sais pas si je réponds à ta question, mais.
Non, c'est bien.
Ouais.
C'est carrément bien. Et est-ce que, à 30 ans, t'aurais eu la même définition de la réussite? Comment tu voyais la réussite
Évidemment que non. Évidemment que non. Je vieillis, donc je deviens plus sage.
C'est la sagesse.
Non. Je pense que quand on retourne 30 ans en arrière, c'est-à-dire vers vos naissances, là, ou ta naissance, quand on c'était le réussir sa vie, ça ressemblait fort à réussir dans la vie. C'est-à-dire que on parlait beaucoup plus de position sociale, de le travail rémunéré et sa rémunération était au cœur de la vie, parce que la société était comme ça à l'époque. Parce que peut-être aussi on voulait améliorer la condition par rapport à ses parents. Parce que le but dans la vie, c'était de fonder une famille, d'avoir des enfants, d'acheter sa maison. Et le travail, c'était vraiment le pilier central. Hein. Et donc, il fallait grimper dans l'échelle. Donc, non, il y a 30 ans, on raisonnait pas comme ça. Puis, 30 ans, moi, j'étais sans doute beaucoup plus stressée parce que j'avais mes enfants, j'avais le nez dans le guidon. C'est une grosse responsabilité d'avoir des enfants, puis de les éduquer. Hein, Et puis bon, j'étais parfois un peu toute seule aussi aux manettes, là, parce que justement, le travail prenait tellement de place que, tu te souviens, hein, le travail occupait beaucoup papa, donc à 30 ans, je disais pas la même chose. Hein. Mm-hmm. Je pense que je suis beaucoup plus sereine maintenant, beaucoup plus, sans doute, heureuse qu'à 30 ans. Bah oui, à 30 ans, tu bâtis ta vie encore.
Ouais. Hein.
Et puis, tu fais des enfants, certes, il faut les éduquer, mais il faut assurer. Hein.
Ouais, tu as une certaine responsabilité.
Ouais, ouais. Faut assurer, faut financièrement, faut assurer. Donc, pour assurer, il n'y a pas à tortiller. Hein. Faut bosser. Faut bosser. Mais c'était dans l'ordre des choses. Quand tu es dans le nez dans le guidon, tu t'avances. T'avances.
Puis là, tu parles d'assurer avec, donc avec nous, avec mon frère et ma sœur. Mais assurer, quand tu en parles, c'est rigolo parce que c'est en accord avec ta vision de la vie de 30 ans. C'est-à-dire d'avoir un confort financier pour qu'on puisse grandir dans de bonnes conditions. Et avec j'ai l'impression que dans la manière dont tu l'as dit, qu'il y avait une sorte de grille d'assurance qui correspondait à ta vision à votre vision de la vie avec papa à 30 ans. Et j'avais l'impression que, aujourd'hui, elle est un peu différente, dans le sens où t'as peut-être pris de l'assurance, ou t'as eu le temps de t'apaiser sur certains aspects. Et que t'aurais peut-être pas forcément la même approche aujourd'hui qu'à 30 ans.
Je ne sais pas, justement, c'est une bonne question. Hein. Parce que bon, quand tu crées une famille et puis que tu achètes ta maison, ce qui est quand même raisonnable, de s'endetter pour acheter sa maison, parce qu'un jour on est vieux et c'est mieux d'être autonome à ce niveau-là. Bah, y a peut-être pas 36 solutions quand même. Hein.
Ouais.
Et puis, il faut être. Je pense que les enfants. Enfin, c'est un détail, mais par exemple, les enfants, quand vous étiez petits, je pense que c'était plus facile de vous occuper. Je pense que élever des enfants, c'est plus cher maintenant. Peut-être aussi parce qu'il y a le stress des parents, il faut proposer des clubs, il faut proposer des jeux beaucoup plus coûteux. Je pense que quand vous étiez petit, c'était assez facile de vous occuper avec des jeux très basiques, que maintenant, la grille a monté, le niveau a monté.
Tu penses que les enfants aujourd'hui ont besoin de plus que...
Et je me disais, âge égal, ou alors j'ai fait des rangements et j'ai trouvé avec quoi je m'occupais à 8 ans. Mais tu proposes ça à un enfant maintenant, mais il s'ennuie, il en a rien à faire, ça l'amuse pas du tout, parce que maintenant les enfants sont tellement habitués à ce qui est de l'action, à toujours plus en fait. Bah, c'était un jeu trop paisible où au bout d'un quart d'heure l'enfant s'ennuie.
Oui, c'est vrai. Mais c'est toute la société qui s'est accélérée de manière générale.
Oui,
Je me rappelle quand on était petit avec Rémi, on jouait avec un bâton dans le jardin et ça nous suffisait à croire qu'on était des chevaliers. Et alors que, même nous, dans nos vies d'adultes, tout va beaucoup plus vite. Et moi, les périodes d'inactivité où j'ai pas de stimuli, elles sont beaucoup plus dures, alors que j'ai des souvenirs d'après-midi d'ennui quand j'étais enfant qui restaient très bons et que j'arrivais très bien à supporter, alors qu'aujourd'hui il me faut un stimuli constant pour que j'ai quelque chose à mettre sous la dent en fait. Et je pense que c'est en partie dû au numérique, enfin en grande partie même j'imagine, et puis surtout toutes les connaissances qu'on a sur l'attention qui font que toutes nos applications, toutes nos tablettes, tous les supports numériques sont faits en sorte d'attraper notre attention, qui fait qu'on se retrouve toujours happé et on s'habitue à ce stimuli constant qui fait qu'aujourd'hui on a besoin d'avoir une tablette et de la télé en fond en même temps, quoi. On se retrouve avec deux écrans en simultané, alors que...
Pourtant, tu peux bien remercier ta mère, parce que ces après-midi d'ennui, enfin, j'espère qu'il n'y en a pas eu trop quand même, ces après-midi d'ennui, en fait, sont excessivement bénéfiques pour la construction d'un enfant.
Mais
c'est sûr, c'est son imaginaire qui se développe, c'est sa créativité. Je pense qu'un des problèmes actuels, c'est qu'un enfant sorti de l'ordinateur, des écrans, des jeux, il ne sait pas quoi faire.
C'est un peu...
Il ne sait même plus à quoi il peut accéder.
Je me pose la question justement parce que j'ai mon regard de personne qui n'est pas père, qui n'a pas d'enfant, qui n'a jamais éduqué d'enfant, mais je me dis que justement les parents d'aujourd'hui sont peut-être justement au courant de ça et essaient de changer les choses, parce que je pense qu'il y avait plein d'enfants de ma génération qui pareil ont été éduqués à la console et qui passaient leur temps sur leur Super Nintendo. Et moi, je suis persuadé qu'il y a plein de parents d'aujourd'hui qui font attention à limiter ce temps ou à offrir en tout cas des loisirs peut-être plus créatifs.
Ce qu'il y a, c'est qu'il faut supprimer les écrans, mais il faut proposer autre chose en contrepartie.
Oui, c'est ça.
Et ça c'est
demande de l'investissement.
Et ça, c'est difficile quand les parents ont fait leur journée, qu'ils ont pris les transports, qu'ils rentrent chez eux, ils sont harassés, et il faut se dépêcher de tout faire la deuxième journée. C'est difficile de proposer des choses aux enfants.
Je suis d'accord.
Mais être parent, c'est très très compliqué. Hein. C'est très difficile.
Moi, c'est vraiment une des problématiques qui me... c'est un truc qui me fait un peu peur si j'ai des enfants un jour, c'est d'être trop claqué pour pouvoir être disponible pour eux et de pas être en fait ça me fait peur de me dire que je rentre du taf le soir et que je sois vanné de ma journée et que voir mes enfants et ben en fait ça devienne pas une corvée mais que ce soit dur d'être disponible pour eux parce que j'ai donné toute mon énergie dans mon boulot en fait.
Ouais, mais je pense que... Bon, bien sûr, on est fatigué le soir, mais je pense que les forces sont décuplées quand on a des enfants. Enfin, je ne vais pas faire une collection de souvenirs, mais je pense qu'on a des réserves qu'on ne soupçonne pas. Et puis, c'est une des raisons pour lesquelles, dans le couple, il faut bien l'admettre, Si on fait choisir de fonder une famille, il faut qu'il y en ait un qui puisse compenser l'absence de l'autre. Parce que c'est vrai que les familles où les deux rentrent fort tard, que les enfants rentrent avec la clé autour du cou, en attendant les parents le soir, si les enfants sont encore un peu jeunes, c'est compliqué. Ou alors, il faut avoir des super grands-parents à côté, quoi. Mais c'est bien quand il y en a un qui peut être présent plus que l'autre. Voilà, c'est pour ça que je n'ai jamais regretté. C'était quand même un choix. Hein. Un choix limité, certes, mais c'était quand même un choix. De pouvoir le faire. Et c'est vrai que c'est aucun regret à ce niveau-là.
Bon, après cette petite parenthèse parentée, est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as réussi ta vie, si on fait notre bilan de mi-parcours dont on parlait tout à l'heure?
Oh ben oui, oui, incontestablement, bien sûr, bien sûr. Enfin, je serais honteuse de me plaindre et de dire que non. Enfin, à partir du moment où on arrive à donner un sens à sa vie, je pense que c'est gagné. Après, il faut trouver le sens. Mais le sens, il y a toujours un fil rouge, je pense, depuis tes convictions en début de vie, que tu essaies de suivre. Mais il y a quand même des variations, justement, en fonction des événements de ta vie. Bon, alors, j'ai eu ma période mère de famille. Pas facile, mais plutôt réussie, quand même. Hein, c'est quand même chouette. Bon, j'ai eu des... Je pense que oui. Aujourd'hui, j'ai réussi à redonner un sens à ma vie. C'est vrai qu'en plus, il y a l'âge qui vient. Il y a des périodes où on est plus ou moins bien. Et bon. Et à partir du moment, c'est ce que je te disais. Si t'as pas de regrets, si tu te dis je revivrai de la même façon, je pense que c'est un bon témoin.
Ah ouais. Donc c'est quoi là aujourd'hui les trucs qui... les choses qui drive ta vie, comme tu dis?
Qui drive.
Excuse-moi, Startup Nation. Qui guide ta vie? C'est quoi les moteurs qui font que tu te lèves le matin?
Bon, alors un de mes fils rouges, c'est toujours essayer d'être quand même un peu tourné vers les autres. Bon, on réussit pas toujours, hein, je suis pas une sainte. Mais aujourd'hui, je pense que le fait d'avoir retrouvé... ce groupe de volontaires, puisque c'est pas une association qui essaie de faire de l'alphabétisation à des gens qui sont réfugiés, des fracassés de la vie, hein, ces gens-là, d'y aller toutes les semaines et puis d'essayer de leur apporter à mon mince niveau, je pense que ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte beaucoup. Et puis c'est bien, ça permet de relativiser ces petits bobos, donc c'est très bien. Voilà.
Est-ce que tu as eu des modèles de réussite, que ce soit tes parents, amis, des personnalités connues que tu admirais, qui t'ont poussé?
Ben, je pense qu'inévitablement il y a des personnes qui t'influencent, hein, que tu as envie de suivre. Bon, c'est pas obligatoirement des gens connus, ou alors c'est pas obligatoirement conscient. Parfois, tu reprends des façons de faire, mais tu sais pas sciemment que... Enfin, tu te dis pas, ah oui, tiens, c'est...
Oui.
C'est pas comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais effectivement, bon, j'avais une très bonne amie... mais je pense qu'on a toujours des modèles. J'avais une très bonne amie qui... Quand j'ai eu mes enfants, justement, parfois, tu tâtonnes, c'est nouveau. Hein, y a pas de formation de parents. Et donc, c'était une excellente éducatrice. Et j'ai pris énormément d'exemples sur elle. Bon, c'était pour Anne, tu vois, elle a sué les plâtres, ta sœur aînée. Donc t'en as profité. Oui, bien sûr qu'on a des modèles, mais je peux pas dire, ah oui, Mère Teresa, j'aurais pas la prétention. Sœur Emmanuelle, l'abbé Pierre.
Non, mais ça peut être des gens bien plus modestes.
Oui, non, c'est ça, c'est sûr. Mais on se dit pas toujours, ah tiens, je vais prendre modèle
sur... Oui, on ne conscientise pas forcément.
Ouais, voilà.
Comment c'était à la maison quand t'étais petite, niveau de l'enfance, de l'éducation, dans quel contexte t'as été éduquée?
Ben moi, je suis de la campagne, d'une ferme, donc un milieu plutôt assez fermé. Bon, quand j'étais petite, je sais pas à quel âge tu veux, mais petite, ça fait longtemps, hein, puisque je suis née en 1959, alors... J'y pensais justement là, en prévoyant. La télé n'est intervenue que quand j'avais 8 ans. Avant, on n'avait pas la télé. Et la télé, au départ, c'était une chaîne, puis deux. Et puis, il n'y avait pas de télé dans la journée. Il y avait les informations à 13h. Après, c'était fini. Et donc, un milieu plutôt... Comment dire ? Conservateur. Je ne veux pas trop le côté péjoratif. Mais bon, quand même, le milieu paysan est un milieu un petit peu en huis clos. Mais des parents aimants, ayant quand même les moyens, mais il n'y avait pas de... Il n'y avait quand même pas de folie, on ne partait pas en vacances. Mon père se trouvant sans doute qu'on était à la campagne toute l'année, il ne voyait pas l'intérêt d'aller en vacances. Puis bon, les vacances, ça ne faisait que débuter. Hein. Mais bon, j'allais au cinéma de temps en temps, j'arrivais peut-être à aller à Paris une fois par an, presque tous les ans. La première fois où je suis allée à Paris, j'avais 6 ans. On avait pris le train, c'était quand même une aventure sur la journée, parce qu'on pouvait prendre le train, c'était la ligne Calais-Paris, avec maman. Maman était assez moderne, hein, assez moderne, mais bon, il y avait quand même, pas un carcan, mais les habitudes, le quand dira-t-on. Quand on est d'une bonne famille, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Enfin, une éducation un peu judéo-chrétienne, hein, pas un peu judéo-chrétienne. Bon, enfin, on ne faisait quand même pas la prière tous ensemble le soir, hein, quand même pas. Voilà. Donc, j'ai été élevée dans ce milieu-là. Je suis allée en école privée, autant au collège, au primaire, au collège, l'internat, très difficile à supporter à 15 ans, à Abbeville. Et puis, voilà. Et puis après... Jusqu'en troisième, c'était une école de filles, demi-pensionnaire. Aucune once de liberté, dans la mesure où c'était à 5 km de chez nous, donc maman nous déposait, ou une autre famille devant la porte. Le soir, on nous récupérait devant la porte. Donc, on revenait dans notre campagne. Donc après, je suis arrivée sur Abbeville en internat, où j'avais sans doute plus de liberté qu'en étant demi-pensionnaire. Mais enfin, c'était quand même chez les Ursulines.
Hein ? Les Ursulines ?
Les Ursulines, c'est une congrégation de religieuses. Mère, on les appelait mère, là. Mère Jeanne-Marie était notre maîtresse de division en seconde. Enfin bon, je n'étais pas du tout heureuse, donc j'ai fait une seconde scientifique. Je suis passée en première scientifique, mais bon, très très rade et pâquerette. Au bout d'un trimestre, je me noyais, mais je ne voulais surtout pas doubler. Ça m'aurait fait une année d'internat
en plus.
Donc j'ai bifurqué, il n'y avait pas de section économique. J'ai bifurqué en littéraire pour surtout... faire mes 3 ans pour arriver au bac, pas un de plus. Non, ce qui est une erreur monumentale. Mais soit c'était pour éviter l'internat, et après, surtout que j'étais plutôt mal dans ma peau, hein, d'avoir arrivé interne à 15 ans dans ce milieu-là, une école, là c'était mixte. Mais les garçons logés ailleurs, attention. Hein,
ne mélangez pas.
Et puis, après, donc, j'étais fort mal dans ma peau. Et après, je suis arrivée sur Amiens, où j'ai passé mon bac avec un an d'avance pour faire ce chef-d'œuvre, hein, de passer un bac littéraire. Enfin bon, ça m'allait bien, quand même. Et puis, je suis arrivée à Amiens. Alors là, Amiens, j'étais la fille timide. C'était le fruit de cet apprentissage de la liberté qui n'avait pas été progressif, quoi.
Qu'est-ce que tu veux dire par là, que toi, petite fille de la campagne qui arrivait à la ville,
c'était... Je suis arrivée à l'école d'infirmière à Amiens. On rigolait pas, hein. Ça ne ressemblait pas à l'UTC, moi je te le dis. Hein, au bout d'un mois...
Ça, j'imagine.
D'abord, j'ai eu une dérogation parce que je suis rentrée, j'étais pas majeure. Donc, je suis rentrée à l'école d'infirmière. Enfin, c'était mon souhait, hein, puisque je... Enfin bon, ça, c'est un autre problème, l'orientation. Mais au bout d'un mois, j'étais en stage. Ça n'est plus comme ça. J'étais en stage en neurochirurgie. Et neurochirurgie, comateux, des gens dans leur lit, crâne rasé parce qu'on leur a fait une intervention au niveau de la boîte crânienne. La plupart, ils sont comateux. Ils étaient à poil dans leur lit. Enfin, le choc était rude. Et j'ai... En première année, On est rentré en septembre. Tout de suite, je pense que c'est vers novembre, quand on commençait à avoir quelques notions, ils nous faisaient travailler un week-end par mois. On était vraiment de la main-d'œuvre pas chère. Hein. Un week-end par mois pour nous habituer aux horaires. Alors, soit 6h du matin, soit 14h. Moi, je conduisais pas. Il fallait toujours que je fasse preuve d'imagination pour monter à l'hôpital. Mmh. C'était quand même très compliqué. Je me suis accrochée, mais je pense que c'était parce qu'il y avait une solidarité. Il y avait 99,5% de filles encore, en plus. Et je pense que je me suis accrochée parce qu'il y avait... C'était assez sympathique, je me suis fait des copines, puis bon, il y avait des bons côtés quand même. Voilà ma vie. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des innovations considérables, parce que j'avais quand même réussi à avoir un chéri. Enfin, je raconte une petite anecdote qui est pour vous situer. Et il n'y avait pas le téléphone portable. Et donc, on avait du mal à se voir. J'avais pas le téléphone dans ma chambre, non plus d'étudiante. Et une fois, il est passé sur un mien. Et il m'avait mis un mot. Et moi, j'ai pris mon temps en rentrant de cours. J'ai trouvé son mot. En fait, il m'avait attendu toute l'après-midi. Si on avait eu un téléphone portable. Quelle simplicité. Quel merveilleux après-midi. Donc, on ne s'est pas vu. Il est reparti. Voilà. C'est... Ah ouais, et ça, il n'y a pas 50 ans de ça. Hein. Mm-hmm. Il y en a 40.
Et tu parlais tout à l'heure du coup que de l'orientation, et on en parlait un peu avant en préparant, en discutant du podcast, que t'aurais pas forcément choisi ça si t'avais eu plus de connaissances sur les différentes orientations possibles que tu pouvais avoir à l'époque.
Bien sûr, parce qu'un des avantages, c'était d'avoir dans sa famille des cousins, des frères, des sœurs qui étaient sortis un peu du milieu familial, qui avaient un peu roulé leur bosse. Bon, chez moi, papa était fils unique, c'était une famille de paysans, maman n'avait pas fait d'études, c'était aussi l'après-guerre hein, pour eux. Ils en auraient été tout à fait capables.
Hein. Ah oui, ça, c'est sûr.
Il y a énormément de gens de cette génération qui auraient pu faire des études, mais qui n'en ont pas eu l'occasion. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y avait pas beaucoup de sources d'informations, parce que bon, la télé s'était peu développée, conseiller d'orientation. Si, l'ONICEP existait peut-être, mais il fallait aller à la grande ville, à la grande ville. Et puis, fallait avoir quelques pistes. Alors sans doute que j'ai eu des modèles pour avoir très tôt dit je veux être sage-femme ou puéricultrice. Je me souviens plus lequel. Sans doute que j'ai vu un reportage, j'ai dit ça c'est chouette. Donc après, je suis restée sur cette idée, j'ai pas été voir ailleurs. Et puis j'avais pas de source extérieure qui venait à moi. Hein, personne qui m'a dit pourquoi tu fais pas ça. Et puis je me suis un peu enfermée parce que j'ai passé un bac littéraire. Donc avec un bac littéraire,
ça limitait quand même les
possibilités. Et puis, en plus, comme j'étais pas très bien dans ma peau, que j'étais fort jeune, j'étais trop jeune, hein, j'avais 17 ans, arriver comme ça à la grande ville, ça voulait dire voir du monde, enfin faire face à la vraie vie, quoi. Donc à Amiens, je me souviens, j'étais allée monter au campus, et puis avec maman, parce que maman, elle faisait quand même effort de m'accompagner, hein. Et je m'étais dit, ben, s'il faut prendre le bus, le campus est excentré. Ça m'avait fait peur, c'est le mot. Ah oui. Donc voilà, je suis rentrée à l'école d'infirmière où à l'époque, il fallait signer un contrat d'engagement. C'est même mes parents qui l'ont signé puisque j'étais mineure. C'est-à-dire qu'il manquait d'infirmières à l'époque. Donc tous les mois, je recevais une bourse. Mais en contrepartie, je m'engageais à travailler 3 ans à l'hôpital d'Amiens.
Okay.
Et par chance, j'avais été refusée à l'école d'Abbeville parce que ils pouvaient me prendre, mais il fallait que je signe ce contrat. Et en fait, mes parents, et maman surtout, avaient dit si on peut, on évite le contrat. Hein? Et du coup, ils n'avaient pas été très honnêtes, il n'y avait plus de place d'un coup. Heureusement, sinon je serais allée à l'école sur Abbeville et je serais rentrée chez moi tous les soirs.
Et donc, qu'est-ce que tu aurais fait, tu penses, si, comme étude, si tu avais eu autant de connaissances à l'époque que tu en as aujourd'hui?
D'abord, je pense que j'aurais fait des études plus longues. Je pense que je serais allée vers le droit. A posteriori, je pense que notaire, ça me serait bien allé, un métier de ce type.
Okay.
Peut-être de l'enseignement, mais... mais pas obligatoirement. Non.
Ouais, donc notaire, c'est pas forcément tourné vers les autres. Donc ça correspond pas forcément à ce que tu disais là tout à l'heure de du.
Bah, tu peux mettre une. Bah oui, il y a pas. Tu peux mettre une certaine éthique dans ton métier.
Oui, oui. Non, mais c'est c'est rigolo parce que c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense quand on se dit que ton leitmotiv c'est de d'être tourné vers les autres. Notaire, c'est pas forcément le premier truc qui viendrait. C'est
rigolo. Oui, mais tu peux. Oui, mais tu peux aussi avoir un métier où tu es droit dans ton métier ou. C'est pas que des trucs au service des autres avec une cornette de se tourner vers les autres, c'est pas que ça.
Non, bien sûr.
Ouais.
Est-ce que t'as déjà eu des échecs importants dans ta vie qui t'ont marqué, qui te marquent encore aujourd'hui?
Des échecs importants? Non, bah non. Des échecs, il y en a, mais bon, c'est pas. Qu'est-ce que tu appelles un échec important ?
Bah, un échec, c'est quelque chose que tu as voulu entreprendre, tu as mis de l'énergie, de la volonté, et au final, ça s'est pas passé comme tu voulais, et tu as un peu de regret que ça soit pas bien passé ?
Non. Échec important, non. Des échecs, oui, mais. Enfin, tu te relèves et puis tu continues, mais pas des choses. Voilà.
C'est assez, je trouve, caractéristique de notre famille, de pas donner trop d'importance au moment où on réussit pas, ou les échecs, on se dit c'est la vie, c'est comme ça, tant pis, on vit avec. Enfin, on est très. Je trouve qu'on minimise pas mal, peut-être par pudeur ou par humilité, je sais pas, des moments difficiles ou des choses qui ont pu avoir un impact sur nous.
On serre les dents.
Ouais, je pense un peu.
Ouais. Oui, bah oui, je pourrais très bien me dire, je suis infirmière, je ne suis qu'infirmière, c'est pas ça que je voulais faire, et puis traîner ça depuis.
Oui, par contre.
Toute ma vie. Ouais. Mais non, parce qu'il y a quand même eu des bons moments dans ma profession d'infirmière. C'est vrai que quand j'ai travaillé, quand tu. C'est quand même, tu t'occupes des gens, il y a quand même des moments riches. Il y a des moments, non, mais il y a des moments riches, il y a des moments riches, enrichissants. Et puis, parfois, tu as l'impression de sauver le monde. Enfin bon, et puis le lendemain, tu dis, oh là là, ça va pas. Enfin bon, je veux dire, c'est pas un échec en soi. Non, je regrette pas quand même. Mais je pense que ça correspondait pas vraiment à une vocation profonde.
Oui, bien sûr.
Voilà.
Bon, et à l'inverse, est-ce que tu as eu des succès qui t'ont marqué et dont tu es fier, à part tes enfants, bien sûr,
ils sont
magnifiques.
Voilà, quel succès. Bah si, un succès qui, à mon avis, est primordial, c'est que j'ai bien démarré, j'ai épousé l'homme qu'il me fallait, et je referai pareil. Tu t'arrangeras pour qu'il écoute. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas dit le mot amour, mais je pense qu'il faut qu'il transpire un peu de l'ensemble, hein, sur tous les plans. C'est le moteur de l'homme, de sa vie, non? Tu crois pas?
Ouais, moi je suis d'accord avec ça.
Ouais.
Mais je le vois pas tant que par. C'est Guillaume là, qui en parlait dans le premier podcast et qui citait Denis. Donc je cite mon podcast de Guillaume qui cite quelqu'un.
Attention de pas déformer.
Non, c'est Denis qui disait que l'amour que t'as pour tes amis, c'était le même amour que t'avais pour ton amoureux, mais que c'était juste pas la même intensité, mais que c'était la même base. Et moi je suis assez d'accord avec ça, et dans le sens où t'as pas forcément besoin d'un conjoint ou d'un mari ou d'une femme tout au long de ta vie, mais t'as plus besoin d'un certain quota
d'affection
et qui peut être juste la somme de plein d'amis et sans avoir trouvé l'âme sœur qui te suit toute ta vie, quoi.
Oui, alors donc faut faire abstraction du côté sexuel.
Non, mais ça. Bien sûr, mais je pense que maintenant j'ai jamais fait l'amour.
Oui, non, mais t'as pas été élevé comme moi, toi. Mais ça me fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir, mais quand même un petit peu. On s'est rendu compte que des bébés, s'il y a eu énormément d'orphelins après la guerre, et on s'est rendu compte, notamment dans les pays de l'Est, que, pour pas citer, c'était, je crois, vers la Roumanie. Enfin, je peux me tromper, mais je crois. Des bébés en orphelinat, on les nourrissait, on les changeait, on les collait dans des lits à barreaux. T'as peut-être déjà entendu ça. Dans des bébés où ils étaient là à tourner en rond et en fait, il y en a qui mouraient. Et en fait, ils mouraient de manque d'amour, de manque d'affection.
Bah ouais, ça m'étonne pas. Je pense qu'on a tous vital. Besoin de notre c'est dose. Bah oui, on est un animal social.
Voilà.
Qui est, c'est maintenant cliché de dire bah cette
on
phrase.
On voit bien au niveau des personnes âgées cette solitude qui ressent.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment un truc très occidental, je trouve, d'abandonner entre guillemets les anciens. Parce que je voyais là dans mon voyage, en Amérique du Sud, toutes les familles vivent ensemble avec les grands-parents dans la maison. Dans la même maison, et tu pars de la maison uniquement quand t'as trouvé un mari ou une femme, et garde ce lien en fait avec les personnes âgées toute leur vie en fait. Et ça reste quelqu'un qui reste inclus dans la famille, alors que nous on a un peu tendance à finalement isoler ces personnes et à les mettre sur la touche. Et ce qui je pense que c'est dû au fait que nous on a pris notre liberté, enfin on a sûrement plus de liberté dans notre société, on est plus indépendant.
On peut se suffire, vous pouvez vous suffire à vous-même très tôt. Enfin,
oui, voilà. Et donc dans les sociétés peut-être latines, moi en tout cas de ce que j'ai vu, il y avait plus de dépendance, les gens étaient beaucoup plus. Ils serraient les coudes les uns les autres, mais voilà, c'était compliqué en tout cas de s'extirper du cocon familial. Mais en tout cas, je trouvais que dans leur façon de vivre la famille, c'était quelque chose de vachement bien, en fait.
C'est positif, hein.
Oui, carrément,
ouais. Ouais, tout à fait.
Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au temps libre ? Est-ce que tu t'imposes d'avoir du temps libre productif ? Ou est-ce que là, aujourd'hui, tu arrives à être assez libéré là-dessus dire que tu fais ce que tu veux.
Oui, alors justement, il a fallu que je me dégage un peu du carcan éducatif, parce que ne rien faire ou donner l'apparence de ne rien faire, c'était pas obligatoirement bien perçu. Mais j'ai beaucoup lu quand même, hein, parce que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup ennuyée étant petite, et heureusement on allait à la bibliothèque, donc ça, j'ai beaucoup lu. Et maman lisait beaucoup aussi, donc. Mais c'est vrai que même encore aujourd'hui, j'ai du mal à m'autoriser à bouquiner, à faire un truc qui semble inutile, alors que la vaisselle n'est pas vidée, que la maison n'est pas rangée, que voilà. C'est après, c'est comme une récompense. Je vole un peu de temps libre. Bon, après, quand j'ai travaillé et que vous étiez petit, le temps libre, il était quand même rarissime. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Mais bon, je me soigne, ça s'arrange.
Oui, ça, moi, j'ai un peu ce. Ouais, parce que moi, je pense que je suis un peu l'inverse. C'est que je vais prendre du temps libre avant de vider de la vaisselle.
Tu m'étonnes.
Non, moins en moins. Mais quand même un peu. Et c'est vrai que moi, je culpabilise pas mal de pas faire des trucs productifs si je prends trop de temps libre ou je vais jouer à des jeux vidéo ou je vais mater un film. Je vais avoir un sentiment de culpabilité assez fort au bout d'un moment, quoi. Donc,
Non, mais même encore maintenant, je vois, je m'étais dit, avant d'arrêter de travailler, là, c'est super, je pourrais lire le matin, je commencerai par ça, parce que j'aurai l'esprit clair, reposé pour lire des choses un petit peu plus, comment dire, sérieuses. Et en fait, je le fais pas. Je le fais pas, ou très 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 rarement, et bon, c'est dommage. C'est dommage. Parce que je pense que c'est pas du tout perdu.
Ah ouais, non.
Enfin, je vous rassure, j'arrive à lire un peu quand même.
Et quelle est la place du travail selon toi dans la réussite ? Est-ce qu'on peut réussir sa vie sans travail ? Ou est-ce qu'au contraire le travail a une place prépondérante dans la réussite de sa vie ?
Je sais pas très bien, hein. Le travail, il me semble qu'il est quand même indispensable pour être une source de revenus. si on peut vivre sans travailler, mais remplir sa vie pour qu'elle ait un sens, pourquoi pas, si on en a les moyens, hein. Si on en a les moyens, bien sûr. Hein. Mais le travail, ce n'est pas que de la souffrance, même si c'est un mot qui vient de dans l'étymologie, je pense que tu sais.
Ah oui, ça me vient un peu d'étymologie dans tous les épisodes, pour l'instant.
Mais parce que le travail peut être épanouissant aussi, hein. Ça dépend le sens qu'on donne au travail.
Moi, je pense que c'est même un objectif d'arriver à trouver un travail qui est épanouissant, parce que faire un travail qui ne nous apporte rien à part de l'argent... Alors, toute sa vie, c'est ça
qui a beaucoup évolué, je pense,
nous,
qu'on a vu au fil du temps. Jamais ton père à 30 ans aurait dit bon, ben moi je pars faire un tour en Amérique du Sud et puis après je changerai peut-être un peu d'orientation.
Mm-hmm.
Hein? Jamais. Tandis que maintenant, je pense que tous ces trentenaires qui ont quand même un bagage. Intellectuels assez consistants, qui sont avec un niveau ingénieur, n'hésitent plus à dire pour le moment je mets tout en stand-by, je vais voir si je peux me reconvertir. On en voit beaucoup actuellement.
Bah oui, carrément.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils cherchent un sens à leur vie, ils cherchent à s'épanouir dans leur travail.
Ouais, exactement.
C'est exactement ça. Mmh. Et puis accessoirement d'en vivre.
Bah ça c'est le top, hein. Mais je pense qu'il y a même de plus en plus de gens de notre génération qui acceptent de gagner moins que ce qui leur était promis à la base avec leurs études pour trouver justement un boulot qui les épanouit.
Et je pense aussi que la société a accéléré le pas, parce que tous ces boulots où il y a des performances économiques et qui, au bout du compte, écrasent d'autres...
Mmh.
Non, même si c'est pas en direct, mais mine de rien, dans la chaîne, il y en a qu'on écrase, hein, pour. Donc je pense que les jeunes qui bossent dans ces milieux-là, au bout d'un moment, ça ne correspond, ils sont plus en phase, ça ne correspond plus du tout à ce qu'ils pensent, et à juste titre. Donc là, je pense qu'il y a un mouvement un petit peu inverse qui est en cours. Alors, peut-être qu'il s'accentuera, je sais pas. Qu'il y a sans doute des nouveaux modèles à créer.
Bah, je pense, et surtout, moi, je vois un autre facteur qui accélère tout ça, c'est le changement climatique.
Bah oui.
Parce que tous les boulots, finalement, qui sont très rémunérateurs, c'est marrant. Enfin, moi, je faisais la réflexion l'autre jour, là, avec cette crise de coronavirus, on se rend compte que les boulots essentiels à faire vivre, en fait, le pays, il y a beaucoup de tafs qui sont, en fait, des tafs qui sont peu rémunérés, ou qui sont peu valorisés, au final,
dans
par la société.
Ouais.
Ouais. Alors que, finalement, on se rend compte que c'est les boulots essentiels qui font que les infrastructures ferroviaires de transport tournent, qui fait qu'on a à manger, qui fait qu'on est soigné. Mmh. Et c'est pas des métiers qui sont choyés, alors qu'au final, c'est les boulots qui sont essentiels. Et on se rend compte, en fait, que tous les boulots qui ont des rémunérations assez élevées, c'est des boulots qui, au final, n'apportent rien de très essentiel, de très concret à nos vies. Et moi, je suis persuadé qu'il va y avoir un changement dans les prochaines années qui va être lié justement au réchauffement climatique, pour essayer de trouver des tafs qui sont essentiels, en fait. Et qui vraiment apporte quelque chose à la société. Je sais plus quel, et je crois que c'est un économiste ou un sociologue, bref, qui avait émis le terme de bullshit job, en gros job à la con, et qui faisait un peu le constat qu'il y avait 60% je dis un chiffre au hasard, mais qu'il y avait une énorme partie, en fait, des boulots qu'on avait, qui étaient en fait des tafs qui servaient à rien. Si on les supprimait du jour au lendemain, les gens vivraient tout aussi bien, il n'y aurait pas de changement drastique dans la société, quoi. Et c'est assez vrai, c'est des boulots, finalement, qui ont des rémunérations qui sont assez élevées, et alors qu'il y en a d'autres qui, je pense aux agriculteurs par exemple, qui y a un suicide tous les jours d'agriculteurs, c'est terrible, parce que ces personnes-là sont pas du tout rémunéré à la hauteur du service qu'ils rendent aux gens, en fait.
Tout à fait.
Ouais, dernière question, un peu plus légère. Est-ce qu'il y a des œuvres culturelles qui t'ont marqué sur le sujet de la réussite? ou des artistes qui t'ont inspiré ou des...
Moi, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi à cette question, sans doute, ouais. Mais franchement, là, je demande un joker.
Ok. Ouais. Bon, joker, alors. Mm. Bah, merci beaucoup, maman, ouais. d'avoir bien voulu te prêter à l'exercice ouais. pas forcément évident.
Je peux finir
quand même
parce que j'avais noté une petite... que tu connais, d'ailleurs, une petite citation que tu connais de Tagore.
De Pythagore ?
Non, c'est pas pour moi, Pythagore. Que seulement je fasse de ma vie une chose simple et droite, pareil à une flûte de roseau, que tu puisses emplir de musique. Et moi, je trouve que ça résume assez bien.
Mmh. Tu m'avais écrit sur un bouquin, tu m'avais offert une fois.
Oui, alors ce fameux Martin Hirsch, c'est sur son bouquin, je pense.
Ouais, c'était ça.
Ouais. Et voilà, ben il a la peine.
Ouais.
Voilà, Martin.
Merci beaucoup. Merci, les amis. À la prochaine.
Ça fera combien ? 500 euros ?
500 euros ? Donc, t'es bien plus cher que
pour
les
une fille
précédentes.
Pour une fille qui a vanté le désintéressement à trop d'argent.